dimanche, bonne matinée à vous toutes et à vous tous. Jusqu'à 11h30, vous êtes sur les Voies du Paranormal en compagnie de Marc Menant. Bonjour Marc.
Bonjour Jackie, en chair en os mon petit bonhomme. À voir comme ça ce matin, il a drôle de forme et pourtant il ressemble bien à un Jackie. Tiens, de quoi parle-t-il, le petit Menant, cette matinée? Eh bien, tout simplement de phénomènes que nous avons plus ou moins déjà suggérés dans notre émission, à travers des fantômes, à travers des dames blanches, etc., etc. Mais il y a plus invraisemblable encore, ce sont les ectoplasmes. Alors, si vous êtes lecteur de Tintin, bien évidemment, ectoplasmes, vous pensez au capitaine Haddock, Bachibouzouk et autres petites formules du fameux capitaine. Toujours est-il que les ectoplasmes, eh bien, apparemment, ont existé. Peut-être existeront-ils encore un jour? Question que nous allons nous poser. Alors, comment définir l'ectoplasme? Ce sera la première question que je vais poser à notre invité, Nicolas Maillard, qui est journaliste écrivain. Alors, l'ectoplasme.
Alors déjà, il n'a pas grand-chose à voir effectivement avec ce qu'on peut voir dans Tintin, puisque les fantômes sont assez absents de la littérature de Hergé. Ouais. En fait, les ectoplasmes, c'était des espèces de... Au début, enfin, un médium est capable tout à coup de libérer une sorte de substance qui ressemble d'abord à un gaz luminescent et qui progressivement va se matérialiser. Alors, dans ce gaz-là, on va voir comme des constellations se former qui semblent former l'extrémité des doigts, enfin, la forme d'une main, par exemple. Et la main va se matérialiser concrètement, devenir palpable, au point qu'elle est capable de toucher des gens, comme une véritable main, avec la même température, avec des sensations de moiteur, etc. Et c'est ça qu'on appelle l'ectoplasme.
On peut dire donc que c'est l'incarnation de l'esprit.
En tout cas, à l'époque, c'était tout à fait ce que ça représentait. On cherchait à matérialiser les esprits, et pour le coup, on a obtenu des ectoplasmes.
Alors vous dites, et c'est ça qui est étonnant, à l'époque. Donc, il y aurait, dans notre temps, tel qu'il est répertorié, tel que nous le considérons, là encore, on pourrait presque faire une émission sur la notion de temps, toujours est-il qu'il y a simplement, en quelques années, ces phénomènes qui se manifestent, dont on a des témoignages, et on va évoquer tout cela bien évidemment pour ne pas rester dans une simple hypothèse et de se dire « mais tout cela n'est qu'hallucination ». Alors, je voudrais savoir, comment peut-on admettre qu'il y ait comme ça qu'une crête de phénomènes et qu'après ça disparaisse?
Ben, je crois que pour ça, il faut regarder aussi un petit peu l'histoire des religions ou de la pensée religieuse en règle générale. On voit une crête apparaître à partir de 1850, en gros, jusque les années 30, 40, ça s'arrête. C'est le spiritisme. Et la crête des ectoplasmes, la crête, donc pour reprendre le terme que vous utilisiez, ben, elle arrive précisément en même temps que le spiritisme et elle disparaît précisément en même temps que le spiritisme.
Oui, mais alors bon, le spiritisme, c'était presque généralisé. Il n'y avait pas un salon parisien ou de grandes villes européennes où on ne voyait pas des gens se réunissant et de se mettre à dialoguer par l'intermédiaire des tables avec les esprits. En revanche, les ectoplasmes, le phénomène est beaucoup plus réduit. Et lorsque l'on prend les archives dont on dispose, il y a quoi? Il y a 5-6 médiums seulement qui ont été capables de générer ces ectoplasmes.
Disons que dans le cadre d'expérimentation scientifique, effectivement, il doit y avoir une petite dizaine de médiums, donc à travers la planète, qui à cette époque-là produisent des ectoplasmes dans les laboratoires. Mais en dehors des laboratoires, alors là, peut-être qu'il y en avait plein, on ne sait pas vraiment. Il y a pas mal de témoignages qui rapportent des phénomènes de ce genre. Bon, le seul problème, c'est aussi qu'il est très 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 facile, dans les conditions où se produisaient les ectoplasmes, de tricher. Si ça n'est pas dans le cadre rigoureux d'une expérience de laboratoire.
Alors, on va nous expurger le côté triche en essayant de nous enraciner sur les faits apparemment indubitables, avec toute une procédure qui, théoriquement, rend impossible la manipulation, la présence d'un magicien. Hein ? Alors, par exemple, nous avons entre mai 1922, enfin novembre 1922 et mai 1923 à Paris, l'Institut métapsychique. Alors l'Institut métapsychique, il faut expliquer ce dont il s'agit.
Alors l'Institut métapsychique a été fondé, enfin c'est donc une fondation, fondée en 1919 par le docteur Gustave Gelet et un de ses collègues, le docteur Rocco Santoliquido. C'était deux éminents, enfin tous les deux étaient deux éminents médecins, très en vue à l'époque, qui avaient participé à des comités interalliés de lutte contre la maladie pendant la Première Guerre mondiale, qui tous les deux, enfin Rocco Santoliquido était conseiller d'État en Italie, le docteur Gelet était un éminent médecin de la région d'Annecy, qui ensuite avait été muté à Paris parce qu'il était réputé. Et tous les deux étaient intéressés par ces phénomènes justement du spiritisme. Et ils s'étaient dit que le spiritisme, on ne pouvait pas avoir une approche qui était celle des spirites, puisqu'elle elle demandait l'acceptation de l'existence des esprits comme préalable. Or, un scientifique ne peut pas accepter une croyance au préalable lorsqu'il part pour expérimenter quelque chose. Quoi. Eux avaient une démarche purement et strictement scientifique, et donc ils ont inventé ce qu'on appelait, avec le professeur Richet, mm-hmm. également, qui est prix Nobel de physiologie, ils ont inventé la métapsychique. Et donc l'Institut métapsychique a été l'institution de cette voie de recherche, cette façon d'aborder les sujets.
Alors, aussitôt, ils ont cherché d'abord le personnage capable de générer les ectoplasmes. Ils ont trouvé un médium polonais, c'est cela ?
Plusieurs médiums polonais. Mmh. Le premier à avoir été testé, c'est dès 1920, c'est Franek Kluski. Effectivement, un jeune polonais qui d'ailleurs lui-même ne croyait pas être médium au début, mais qui s'est retrouvé un soir dans une démonstration d'un médium. Et il se trouve que pas mal de phénomènes tournaient autour de lui, des phénomènes lumineux, des espèces d'apparitions lumineuses qui étaient juste autour de lui. Son interprétation, c'était simplement que le phénomène s'était approché de lui. L'interprétation de ses amis, qui étaient ce soir-là avec lui, était plutôt que lui devait avoir des talents de médium. Ce qui s'est confirmé au moment où le médium est parti.
Alors, qui était-il ? On a un portrait, vous pouvez nous tramer un peu l'existence de ce Kluski ?
Franek Kluski, c'était quelqu'un, d'une part, qui était un petit peu artiste, qui écrivait beaucoup de poésie, il avait une profession libérale. C'était quelqu'un qui avait aussi, qui était inscrit dans la vie sociale de manière tout à fait normale. Quelqu'un qui était réputé comme étant très intelligent, d'ailleurs par les chercheurs qui l'ont côtoyé aussi. Donc vraiment quelqu'un de tout à fait normal, discret, calme, pas du tout exubérant comme on peut imaginer certains médiums, non, quelqu'un de tout à fait normal. Il avait une chose de particulière, c'est que le monde de son enfance restait encore très présent dans son esprit. Et le monde de son enfance, c'était, par exemple, je vous raconte une petite anecdote au passage, il se fabriquait des univers comme on s'en fabrique tous quand on est enfant. Il dressait par exemple une toile un rideau entre deux chaises pour se faire une tente, et il allait donc étant petit sous cette tente là et il imaginait un monde dans lequel il y avait une taupe. Alors pourquoi une taupe, ça personne n'en sait rien, il n'y a que lui qui le saura,
parce qu'il ambitionnait d'être dans les services secrets
peut-être et après donc il faisait venir ses camarades de classe, ses camarades venaient à la maison et il emmenait ses camarades dans le monde de la taupe. Donc il avait déjà tout cet univers, toute cette imagination débordante qu'il matérialisait d'une certaine manière aux yeux des autres, rien que par la parole, rien que par une ambiance, une atmosphère telle que parfois des enfants donc qui l'entouraient comme ça ont vu des défunts, un petit frère décédé ou des choses comme ça apparaître autour d'eux.
Et lui ne faisait pas attention à ce qui était formulé par ses petits camarades en disant « vous rêvez, là, vous êtes complètement fou ».
C'est-à-dire que pour lui c'était vrai, c'était évident, il était dans le monde de la taupe.
D'accord.
Et justement c'est parce qu'il n'y avait pas parce que cette frontière-là n'existait pas dans le monde de l'enfance et qu'il a sans doute maintenu ça très 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 longtemps, c'est sans doute ça qui fait qu'il est devenu médium.
Alors on dit aussi souvent que les médiums, et par cette émission j'en ai rencontré de nombreux, souvent ils ont eu un fort traumatisme dans leur enfance qui a déclenché les phénomènes, soit la perte de quelqu'un d'extrêmement proche, soit se retrouvant eux-mêmes dans un état à la limite de la mort. Est-ce que c'était le cas ?
À ma connaissance, j'ai quelques éléments autobiographiques de Franek Kluski et sinon quelques éléments biographiques qui ont été recueillis donc par le docteur Gustave Gelet et d'autres qui figurent dans les archives de l'Institut Métapsychique. À ma connaissance, il n'y a pas de traumatisme comme ça particulier. Maintenant, reste à savoir comment on peut déterminer ce qu'est un traumatisme.
Alors donc, on le retient, il vient à Paris, et expliquez-nous les mesures que l'on va prendre et le monde qui se trouve autour de la table dans la pièce que l'on a choisie. Pièce qui est visitée par des architectes afin qu'il n'y ait pas la possibilité de manipulation extraordinaire envisagée par un manipulateur donc extrêmement avisé, un magicien invraisemblable qu'aurait pu être Kluski.
Alors, là, dans le cas de Franek Kluski, les expériences qui ont lieu, dans les années 20, 1920, vont faire l'objet de tout un tas de précautions dans le protocole d'expérimentation. Mais là où c'est très impressionnant, je pense que vous faites référence surtout aux expériences qui ont eu lieu, comme vous le disiez, en 1922 et 1923, qui étaient, elles, des expériences de démonstration avec des écrivains, des artistes, des membres de l'Académie de médecine, de l'Académie des sciences, même un expert de l'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris, des gens du ministère de l'Intérieur. Il y avait beaucoup de monde.
Voilà, des personnages de renom, des personnages qui ont une position sociale, des personnages qui n'ont rien avec le monde des Illuminés et qui tiennent à leur réputation, à l'honorabilité.
Notons quand même qu'au sein du comité directeur de l'Institut Métapsychique, bon, déjà, il y a le président d'honneur qui est un prix Nobel de physiologie, il y a l'astronome Camille Flammarion, il y a le comte Albert de Gramont, il y a quand même des personnalités du monde de la science, beaucoup sont membres de l'Académie des sciences, donc nécessairement, de toute façon, ils vont prendre beaucoup de précautions.
Voilà, et ce sont des gens curieux, mais des gens qui ne sont pas spécialement acquis à la cause. Ah non. Ils veulent savoir si ça existe ou pas.
Tout à fait. Et pour cette raison-là, ils vont prendre donc des précautions qui consistent d'une part à faire analyser l'appartement. Alors, petite anecdote, l'appartement se trouve au 89 avenue Niel, qui est l'endroit où il y a la boîte de production de M. Christophe de Chavannes, qui ne doit pas être au courant qu'il y avait des fantômes à l'époque chez lui.
D'accord. C'est peut-être pour ça qu'on le voit moins à la télévision, il est devenu fantôme lui-même.
Alors, la pièce a donc été expertisée par des architectes, d'abord. Il s'agissait de savoir s'il n'y avait pas des trappes secrètes, s'il n'y avait pas des possibilités de faire rentrer des objets par la cheminée. Donc, la cheminée était bien cloisonnée. Pendant la durée de l'expérience, on fermait toutes les portes et toutes les fenêtres de l'intérieur avec des scellés. On mettait de la sciure par terre pour pouvoir détecter... Enfin, comme tout se passait quand même dans une semi-obscurité, enfin, une obscurité presque absolue, mais... Donc comme ça, si jamais quelqu'un avait bougé dans la pièce pendant le temps de l'expérimentation, évidemment on le voyait par la sciure. Toutes les personnes qui assistaient à l'expérience étaient toutes enchaînées les unes aux autres par des petites chaînettes cadenassées. Donc la main gauche d'une personne était accrochée à la main droite de son voisin, etc. etc. Et le médium, lui, était au milieu de cette chaîne. Ses petits doigts donc étaient accrochés aux petits doigts de ses voisins de telle manière que tout mouvement de ses mains était accompagné des mouvements des mains de ses voisins, qui étaient contrôleurs.
Ils auraient été entraînés, oui.
Exactement. Et ses poignets étaient liés aux poignets de ses voisins aussi. Ce qui fait qu'en fait, ils ne pouvaient absolument pas bouger.
Alors voilà, nous avons planté le décor. Dans un instant, que va-t-il jaillir de cette réunion bizarre ?